1 Corinthiens 12. Dans ce chapitre, il est question du Saint-Esprit agissant comme puissance dans l'Église. Quand il exerce ainsi son action, il rend plus tranchée la séparation entre l'Église et le monde, et condamne ce dernier. L'Église infidèle a pu se rapprocher du monde et se mélanger avec lui, le Saint-Esprit ne le peut pas, aussi sépare-t-il du monde. Il le fait en attachant les cœurs à Christ, en réunissant les enfants de Dieu dispersés et en leur donnant une même pensée. Lorsqu'il y a division entre les enfants de Dieu, c'est qu'ils sont charnels et marchent comme des hommes. Satan, le monde, le péché, disperse, le Saint-Esprit rassemble. Quand les enfants de Dieu ont perdu l'unité de l'Esprit, c'est que l'Esprit de mondanité les a envahis. Quand la parole de Dieu nous présente le Saint-Esprit, non plus comme puissance, mais comme principe de communion, elle nous en parle autrement. C'est alors le Père qui l'envoie, ou le Fils qui l'envoie au nom du Père. Par lui, nous sommes unis à Christ, un seul Esprit avec le Fils. Mais lorsque la parole nous montre l'Esprit distribuant des dons comme il lui plaît, elle lui donne la place d'autorité dans l'Église. S'agit-il de l'Esprit comme puissance? Christ lui-même l'a reçu dans ce caractère à l'occasion du baptême de Jean. C'est au même point de vue que vous trouvez l'Esprit mentionné en Luc 24,49, Actes 1.8, 2.33, F 4.5, 6. Comme homme, Christ se trouve actuellement dans la présence de Dieu, afin de lui présenter l'Église et de recevoir tout ce qui est nécessaire à l'Assemblée, pour le lui communiquer et l'en nourrir. Comme homme, Christ a reçu le Saint-Esprit pour l'Église, il le lui donne, et cet Esprit ne la quitte jamais. La présence du Saint-Esprit dans l'Église est ce qui la distingue du monde. Elle est actuellement d'une faiblesse extrême, parce qu'elle ne se fie pas à la puissance du Saint-Esprit. À la fin de l'Évangile de Luc, le Seigneur ouvre l'intelligence des apôtres pour entendre les Écritures, mais ce n'était pas encore être revêtu de puissance d'en haut. Luc 24.45, 49. On peut comprendre la parole et l'expliquer, sans avoir la puissance qui la rend efficace pour nous et pour autrui. Nous pouvons jouir beaucoup en entendant expliquer la parole, mais si la puissance du Saint-Esprit n'est pas dans l'âme, cette parole demeure inefficace, et le cœur n'en ressent pas l'effet. Dans l'Église, quoique le Saint-Esprit soit un, il y a toutes sortes de dons. L'Esprit est Dieu, et distribue à chacun en particulier comme il lui plaît. V. 11. C'est une puissance de l'Esprit en nous, qui agit par nous pour le bien des autres, ce n'est ni la vie, ni la communion. On le voit distinctement chez les prophètes qui ont été avant Christ, 1 Pierre 1.10 au 12. On peut être l'agent pour opérer une bénédiction, sans en être soi-même l'objet. Par ces dons qui nous sont départis, nous devenons des serviteurs de Christ, il y a plusieurs dons, mais un même Seigneur. V. 5. Tous ces dons doivent être sous la direction de l'Esprit et au service de Christ. Il arrivait aux Corinthiens d'employer leurs dons à leur propre gloire. Tous les dons peuvent donner lieu à cet abus. Le Saint-Esprit agit librement qui il veut, car, à cet égard, il est souverain, il peut, par le frère le plus ignorant, reprendre les plus instruits. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit, en vue de l'utilité commune, V. 7, et il ne faut pas employer les dons, si on ne le fait pour le bien des âmes et pour l'utilité du corps de Christ, de l'Église. Certains dons étaient un signe pour le monde, et ont discontinué, d'autres sont nécessaires à la vie de l'Église, et Dieu les a maintenus. Les premiers étaient les ornements de l'Église, son témoignage aux yeux du monde. Si Dieu avait laissé tous ses ornements et continué ses signes à l'Église mondaine et idolâtre, il aurait sanctionné le mal aux yeux même des incrédules. D'autre part, Christ n'a jamais manqué de donner les dons nécessaires à la nourriture de son corps, il aime sa chair, la nourrit et l'entretient, il les continuera toujours. Mais il est arrivé dans l'histoire de l'Église, et il arrive encore tous les jours, que l'Esprit étant contristé, le loup en prend occasion pour venir et disperser le troupeau. Alors les membres, n'étant pas unis de fait, n'agissent plus ensemble pour le bien de tous. Cela n'empêche pas que tout témoin fidèle ne fasse de son mieux au milieu de ce désordre. Nous devons nous appliquer à reconnaître en nous le don du Saint-Esprit, afin de servir Christ par son exercice. C'est une chose extrêmement triste de voir des chrétiens se choisir un ministère. S'ils écoutaient le Saint-Esprit, ils seraient édifiés par tout ministère de Christ. Du moment où nous reconnaissons la voix du Saint-Esprit, nous devons nous soumettre à cette voix. C'est une cause de bien des misères, que l'homme ait voulu remplacer le Saint-Esprit. Dans les premiers temps de l'Église, l'Esprit agissait, on en reconnaissait la puissance, et on se soumettait à lui. Quand il agit, on est exhorté, instruit, humilié, édifié. Quand c'est l'homme, on jouit peut-être, mais sans profit. Ce ne sont pas les dons les plus manifestés qui sont les plus évidents aux yeux de Dieu et qui agissent le plus puissamment pour le bien de l'Église. Un don de sagesse qui s'exerce en particulier, peut être plus efficace qu'un don de prédicateur qui s'exerce en public. Les membres du corps les plus faibles sont les plus nécessaires. Personne ne voit le cœur, ce réservoir de la vie du corps, mais s'il cessait de battre, tout serait fini, il est plus essentiel que les yeux et la main que l'on voit. Il est improbable que Dieu ait donné tous les dons à un seul homme. Toute assemblée est languissante, dès qu'un seul homme y exerce ses dons.